Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Présence à l'écoute de ce nouveau numéro de Métropolez-vous. En ce moment, le monde entier a les yeux tournés vers la COP26, la conférence 2021 sur les changements climatiques qui se tient ces jours-ci à Glasgow. Et l'on peut se demander ce que font Toulouse Métropole et les communes métropolitaines pour lutter contre le réchauffement climatique, réduire leurs émissions de CO2 et préserver l'environnement, notamment en ce qui concerne les moyens que nous employons pour chauffer nos habitations et avoir de l'eau chaude. Une actualité récente nous donne l'occasion de mettre ce sujet au sommaire de la présente émission, la mise en service de la nouvelle chaufferie biomasse de Blagnac, un équipement qui vient compléter le réseau de chaleur de la commune blagnacaise. Et à propos de réseau de chaleur, il m'a aussi semblé important de vous faire connaître ceux qui existent déjà dans la métropole toulousaine, de vous présenter les différents types de réseaux et d'expliquer leur fonctionnement, leurs apports respectifs. Voilà donc ce qui va constituer le contenu de ce numéro dédié à la nouvelle chaufferie biomasse de Blagnac et au réseau de chaleur dans la métropole toulousaine. Et comme nous allons évoquer la nouvelle chaufferie biomasse de Blagnac, il était logique d'inviter aujourd'hui le maire de cette commune, Joseph Carl, également vice-président de Toulouse Métropole, chargé de la prospective et de la contractualisation, vice-président d'Opidea. Bonjour monsieur le vice-président et bonjour monsieur le maire. Avant de présenter la nouvelle chaufferie biomasse de Blagnac, dans la mesure où cet équipement s'inscrit dans ce qui s'appelle le plan climat air énergie territorial de Toulouse Métropole, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les ambitions de ce document ? Parce que là, nous sommes vraiment au cœur du sujet.
Bonjour Eric, bonjour à tout le monde. Oui, effectivement, l'opération biomasse à Blagnac est une des composantes d'une démarche beaucoup plus large qui est la démarche énergie de la métropole. Alors, il y a plusieurs domaines. Quand on parle aujourd'hui de la transition écologique, c'est naturellement la transition énergétique. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire rénovation thermique des bâtiments, parce qu'il faut éviter de perdre de l'énergie. Ça veut dire, bien sûr, recherche d'énergie qui ne sont pas des énergies fossiles. Comment, au niveau de la métropole, la question de ces énergies se pose. Mais ça veut dire aussi limitation du CO2. Donc ça veut dire modification des mobilités avec à la fois l'amplification du réseau vert, avec le réseau express vélo, l'autoroute du vélo, avec la ZFE, la zone à faible émission, avec le travail d'observation sur les nuisances au niveau de l'atmosphère. C'est un tout qui compose ça. Et bien sûr, chaque fois qu'une opération le permet, utiliser des méthodes un petit peu modernes d'énergie, comme ça a été le cas avec les réseaux de chaleur. On en parlera, je pense, tout au long de cette émission. Les réseaux de chaleur et les compléments aux réseaux de chaleur, qu'est la chaufferie biomasse pour ce qui concerne l'aéroport.
Alors, il y a un objectif ambitieux de ce plan climat air énergie territorial, puisqu'il s'agit de doubler la part des énergies renouvelables locales dans la consommation d'énergie du territoire d'ici 2030.
Tout à fait.
2030, c'est demain. Hein.
Oui, tout à fait. Donc, cela signifie qu'il faut effectivement aller rechercher tous les dispositifs qui vont remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables. Alors, la question, elle ne se pose pas au niveau territorial comme elle se pose au niveau national. Au niveau national, la question, elle se pose autour de quelle politique d'éolien, quelle politique autour des énergies qui, effectivement, sont contestées, mais qui sont importantes, c'est le nucléaire. Alors, au niveau local, c'est de dire comment on pourrait en faire. Première chose, on le voit ici, l'utilisation de tout ce qui peut produire de l'énergie avec la géothermie, mais aussi avec, par exemple, l'utilisation des déchets, avec l'usine du Mérail, qui permet de produire de l'énergie.
En incinérant les déchets, l'incinérateur des
Mérail. Incinération, tout à fait, c'est le cas. Bon, dans le processus de construction des logements, il faut aussi qu'on soit sur des modèles, à la fois, au moins, sur des bâtiments à zéro consommation d'énergie, voire des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire qu'effectivement, le photovoltaïque permet de produire de l'énergie, et contrairement à ce que produisaient les anciens modes de construction, où on avait de la consommation, on peut avoir, sur un certain nombre de bâtiments, de la production d'énergie à travers, effectivement, le photovoltaïque. Donc c'est un dispositif qui doit permettre d'être dans le mix énergétique, mais le mix énergétique qui s'appuie, qui s'adosse le plus possible aux énergies renouvelables pour éviter la consommation d'énergie fossile.
Et tout ça suppose une vision et des choix politiques. C'est vraiment entre les mains des élus tout ça. Eh bien, j'espère que ces premières explications auront déjà donné quelques informations et éclaircissements à nos auditeurs sur notre sujet du jour. Nous allons y revenir et le développer plus tard dans cette émission. Pour l'instant, place à l'actualité métropolitaine avec Corinne Saint-Félix et son habituel flash d'informations hebdomadaire. Métropole et vous, l'actu. Nous ouvrons ce flash avec une information en lien direct avec notre sujet du jour. Dans le cadre de son plan climat air énergie territorial, Toulouse Métropole a pour ambition de doubler la part des énergies renouvelables locales dans la consommation d'énergie de son territoire d'ici 2030.
Oui, pour atténuer l'impact des activités sur le climat et réduire les émissions, la métropole étend et optimise les réseaux de chaleur et de froid sur son territoire. Toulouse Métropole possède déjà 3 réseaux de chaleur gérés en délégation de services publics. Ces derniers sont alimentés en moyenne plus de 90% par des énergies renouvelables ou de récupération, à savoir la chaleur fatale issue de l'incinération des déchets, la géothermie, la biomasse ou la chaleur fatale de supercalculateurs. Des chaufferies d'appoint au gaz viennent compléter la production de chaleur. Des extensions ont été réalisées ces dernières années, parmi elles le réseau de chaleur de Blagnac qui est alimenté par de la géothermie profonde. Il s'étend sur près de 4 km et dessert l'équivalent de 2500 logements avec 37 points de livraison. L'extension du réseau vers l'aéroport et la nouvelle chaufferie biomasse ont été mises en service en 2021. Ce réseau est géré par la société Blagnac Énergie Verte par contrat de délégation de services publics jusqu'en 2037.
L'emploi dans la métropole toulousaine maintenant. Le programme Toulouse Impact fait partie du plan de relance pour l'emploi de Toulouse Métropole qui soutient les entreprises de l'économie sociale et solidaire.
Et Toulouse Impact, c'est 3 défis territoriaux pour 3 filières d'avenir de l'ESS autour des thématiques de l'inclusion économique et sociale, de l'économie circulaire et de l'alimentation durable. 17 actions sont lauréates de la seconde édition des appels à projets et des prix Toulouse Impact. En voici quelques exemple, l'atelier des bricoleurs. Ce tiers-lieu du savoir-faire manuel propose des espaces de menuiserie et de métallerie en libre service, des initiations et l'accueil de groupes au service des associations et des jeunes des quartiers nord de Toulouse. La cloche mène des actions pour changer le regard sur le monde de la rue et impliquer les citoyens et commerçants dans la lutte contre la grande exclusion. Les passeurs Labéo est une bibliothèque d'objets pour mutualiser les objets du quotidien, privilégier l'usage à l'achat et faire par soi-même. Et enfin, VRAC organise des groupements d'achat pour favoriser l'accès aux produits de qualité, biologiques, locaux et écologiques dans les quartiers prioritaires. Prix spécial Banque des Territoires. La liste est longue et elle est à découvrir dans son intégralité sur le site internet www.toulouse-métropole.fr.
Et puis, mercredi, c'était une journée du souvenir. La Cité de l'Espace a rendu hommage aux déportés du camp de Dora.
Oui, ce mercredi 3 novembre, la Cité de l'Espace organisait une journée hommage en mémoire des déportés de France qui ont travaillé sur les premiers moteurs de fusée V2 au camp de Dora, l'un des lieux les plus meurtriers du système concentrationnaire nazi. 22 ans après l'engagement pris au centre d'histoire de la coupole auprès des survivants de Dora, réunis au sein de l'amicale Dora Elrich, l'objectif est enfin atteint. Fruit de la mobilisation sans précédent d'historiens, de professeurs, d'archivistes, de bénévoles, de familles, de recoupements aussi de milliers d'archives, cet ouvrage fixe sur le papier l'histoire d'un pan entier de la déportation, dans toutes ses composantes, ses diversités, sa complexité et sa pluralité. L'occasion aussi de remettre un exemplaire du dictionnaire Le Livre des 9000 déportés de France à Mittelbau-Dora sous la direction de Laurent Thierry, docteur en histoire, aux familles des déportés au Garonnais passés par le camp de Dora. Un pan méconnu de la conquête du ciel et de l'espace que le grand public a pu découvrir et peut encore découvrir.
Corinne Saint-Félix et son flash d'informations hebdomadaires. Alors, Joseph Carl, je sais que toutes ces informations vous intéressent, notamment la première, bien sûr, en lien direct avec le sujet de cette émission, mais vous souhaiterez peut-être aussi commenter les deux autres.
Oui, alors sur la première, on va y revenir, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que cette démarche aujourd'hui de géothermie a été initiée dans les années 70 à Blagnac pour chauffer 2000 logements. C'était une première, utiliser la nappe d'eau chaude pour chauffer les logements, voilà. C'était quelque chose d'un peu particulier. Jusque-là, Blagnac était la seule à être là-dessus. Et puis la métropole est arrivée. La métropole a donc eu la compétence du domaine du chauffage urbain. Et dès que la métropole a pris cette compétence, il y a eu la nécessité d'étendre et donc d'avoir un réseau qui va dépasser la ville de Blagnac. Donc, être précurseur, c'est bien quand le développement se fait derrière. Sur la question de l'économie sociale et solidaire, je voudrais juste dire un mot. La métropole est moteur. Elle est la locomotive de ces questions, mais il faut que chacune des communes s'inscrive sur cette question de l'économie sociale et solidaire. On le fait à Blagnac et on voit aujourd'hui beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là. Bon, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'associations là-dessus, notamment l'association du Relais ou d'Interrelais, qui est complètement dans cette logique. Mais il est important, là aussi, que la métropole donne le signal, marque les choses. Enfin, sur le dernier point, bientôt le 11 novembre, on va devoir... Si c'est à cette cérémonie, moi je crois qu'il est important de ramener toujours ce souvenir, d'avoir ces démarches-là. Je crois que dans toutes les communes, on est attaché à ce que les enfants soient présents au moment des cérémonies, que ce soit le 11 novembre, que ce soit celle du 8 mai, pour pouvoir leur expliquer que s'ils sont là, s'ils sont en liberté, c'est aussi parce que d'autres avant eux ont accepté le sacrifice de leur vie pour arriver à cela.
Oui, ça me semble important de le rappeler encore aujourd'hui, toujours aux jeunes générations. Eh bien, merci d'avoir commenté pour nous l'ensemble de l'actualité métropolitaine. Nous allons maintenant poursuivre cette émission consacrée, je le rappelle pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, à la nouvelle chaufferie biomasse de Blagnac et au réseau de chaleur dans la métropole toulousaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Et nous poursuivons donc ce numéro de Métropole et vous avec son invité Joseph Carl, maire de Blagnac et vice-président de Toulouse Métropole en charge de la prospective et de la contractualisation, pour expliquer comment fonctionne la nouvelle chaufferie biomasse de Blagnac. Au préalable, il faut qu'on explique ce qui lui permet de produire de l'énergie, parce que j'imagine que ce n'est pas forcément connu de tout le monde. Quand on parle de biomasse, de quoi s'agit-il en fait? Il y a plusieurs biomasses, il n'y en a pas qu'une.
Tout à fait. Alors en fait, la biomasse, c'est l'utilisation d'un certain nombre de rejets, au fond. Dans le cas particulier, on en parlera de Blagnac, c'est ce qui provient des scieries. Et j'expliquerai peut-être, puisque j'ai eu la chance de visiter le mécanisme, comment les choses fonctionnent. Mais effectivement, on a des biomasses. La production de chaleur peut déboucher sur plusieurs choses. On a de la méthanisation qui est possible, on a du thermique qui est possible. Et le choix qui a été fait sur Blagnac, ça a été effectivement d'utiliser pour produire la chaleur du bois. Alors, bien sûr, on pourrait se dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe là-dessus? En réalité, ce ne sont pas des rondins de bois qui vont arriver dans
l'usine. Oui, parce qu'on pourrait vous dire, vous n'avez rien inventé.
Non, voilà. Non, ce sont effectivement les détritus que l'on a, enfin les détritus,
les copeaux de bois. Hein.
Tout à fait.
Et donc, dans les scieries.
Hein. Ces copeaux arrivent dans l'usine, ils vont être traités, et puis, bien sûr, produire de la chaleur. Alors, bien sûr, là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des résidus, des fumées. Les fumées vont elles-mêmes être traitées. Parce que derrière, si on dit on ne veut pas produire de CO2, il faut éviter de produire du CO2. Donc, il faut qu'on retraite ces fumées pour réduire et pour éliminer le CO2. Et puis, il va aussi rester de la combustion un certain nombre de résidus. Et là aussi, ceux-là vont être revalorisés dans des usines de valorisation qui sont sur le territoire. L'objectif, c'est aussi d'aller chercher... la matière première, donc les copeaux de bois, non pas à 500 ou 600 km, parce qu'on aurait là aussi de la consommation.
Eh oui, de ce qu'on gagnerait d'un côté, on le perdrait par les transports.
Donc c'est d'avoir une proximité. Là, ça va être les départements limitrophes qui vont permettre de produire cela. Et donc le processus a été imaginé pour être véritablement dans une démarche qui est une démarche de transformation de la consommation d'énergie fossile par ce processus de biomasse. Et alors, bien sûr, hein, moi, je parle, puisque je ne suis pas expert ni spécialiste, le travail a été fait donc, par les experts, notamment en lien direct avec l'aéroport, hein, puisque c'est malgré tout l'aéroport qui va être bénéficiaire de cela. Et je me souviens avoir assisté à ce moment-là aux questions qui se posaient, de dire, mais est-ce qu'on fait de la méthanisation ou pas ? Et il s'est avéré que, dans le cadre du circuit court, la possibilité de récupérer des copeaux sur la filière bois, qui est en proximité, c'était la solution qui avait été retenue. Simplement, ce qu'il faut préciser, c'est que ce complément énergétique qui va provenir de cette chaufferie est un complément par rapport au réseau de chaleur dont on a parlé tout à l'heure.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, le réseau de chaleur n'était pas suffisant au regard des besoins de l'aéroport pour assurer la totalité de la consommation d'énergie, et donc c'est un complément. Et ce qui est intéressant, c'est la capacité qui a été celle du délégataire d'assurer la combinaison entre l'énergie du réseau donc d'énergie souterraine et le réseau de chaleur de la biomasse. C'est cette combinaison qui fait qu'on répond à la totalité des besoins de l'aéroport. Et ça, c'est techniquement aussi quelque chose qui mérite d'être souligné parce que c'est une performance.
Alors, la chaleur est acheminée comment ? Par un réseau déjà existant ou il a fallu en construire un nouveau ?
Alors, il a fallu effectivement préparer un autre réseau. Hein. Il y a des travaux qui ont été faits. Mais de la même façon, aujourd'hui, la question va se poser de l'extension du réseau. Il s'avère que la nappe, qui est aujourd'hui la nappe qui est...
Pour la géothermie.
Pour la géothermie, est importante. Donc la question, c'est comment on va utiliser...
Tout le potentiel.
Ce potentiel. Et la question, bien sûr, elle est aussi économique. Il faut que les coûts de l'investissement puissent être amortis sur les économies. Mais il y a une dimension qui est une dimension qu'il faut intégrer, qui est aussi la dimension environnementale. C'est-à-dire que tout ne se mesure pas en euros. Il y a aussi
les retombées,
tout à fait, qu'on évoque aujourd'hui sur la substitution des énergies renouvelables en remplacement des énergies fossiles.
Alors, on a chiffré, je suppose, la production annuelle de la nouvelle chaufferie biomasse de Blagnac. En tout cas, on sait combien de foyers ça va... Enfin, ce n'est pas des foyers, c'est l'aéroport.
C'est l'aéroport. C'est l'aéroport. Bon, l'aéroport, en gros, on est sur une consommation partagée entre ce que va produire la géothermie et ce que va produire la biomasse. La question, là aussi, est celle... Alors, aujourd'hui, c'est un peu délicat d'évoquer l'évolution de l'aéroport. Lorsque le mécanisme a été conçu, on était sur une trajectoire qui était une trajectoire de croissance extrêmement élevée, hein, 10 millions de passagers, et on était sur une trajectoire de l'ordre de 4 à 5% de progression par an. Donc ça voulait dire comment on va encore étendre et élargir l'aéroport, d'autant plus qu'on a l'aéroport entre la partie aéroportuaire proprement dite, mais aussi des extensions. On a des usines de peinture d'avions qui sont sur le périmètre de l'aéroport. Donc aujourd'hui, la question qui va se poser, c'est de regarder comment va évoluer cette activité pour savoir quelles seront les extensions.
Qui a financé en fait l'investissement aujourd'hui ? Il y a la métropole, il y a l'opérateur lui-même, il y a la mairie de Blagnac éventuellement ?
Alors non, la mairie de Blagnac n'a pas financé. On est sur ce que l'on appelle une délégation de service public. Bon, une délégation de service public, pour que les gens comprennent bien, ça n'est pas une privatisation. La délégation de service public, ça veut dire que la maîtrise est toujours la maîtrise publique. C'est pour ça qu'on appelle ça une délégation de service public. Simplement parce que c'est plus simple à comprendre peut-être. Quand on délègue l'eau à un délégataire, il est là pour gérer le réseau, pour distribuer l'eau, mais il n'est pas là pour assurer tout le reste. C'est toujours la collectivité qui dit ce qui doit se passer. Là, c'est la même chose. Par contre, bien sûr, dans un processus comme celui-là, puisque la collectivité continue à maîtriser, il faut que pour assurer cette maîtrise, elle participe au financement. On a donc un financement partagé entre l'opérateur et la métropole. C'est donc le délégataire prend une partie, la métropole prend une autre partie. C'est exactement ce qui s'est passé sur la délégation de la gestion de l'eau et de l'assainissement. On a une partie de l'investissement, 70% porté par la métropole, 30% porté par l'opérateur. Là, on est à peu près sur les mêmes dispositifs.
Alors, il y a une précision importante aussi, c'est que la chaleur qui est délivrée par ces réseaux peut servir bien sûr à chauffer des bâtiments, qu'ils soient publics, privés ou des particuliers, assurer la production bien sûr d'eau chaude, hein, sanitaire. Et puis il y a des usages plus spécifiques, par exemple chauffer l'eau des piscines municipales.
Alors voilà, nous on a la chance à Blagnac d'avoir, alors là c'est de la géothermie qui est encore plus profonde puisqu'on est pratiquement à 1000 mètres. Donc on avait un puits Parce qu'historiquement, on avait imaginé de se servir de cette eau chaude pour chauffer la piscine. Et puis, petit à petit, le puits fonctionnant pas, c'est bouché. Mais on a donc décidé de créer ce qu'on appelle aujourd'hui un bassin nordique, c'est-à-dire que la piscine d'été va fonctionner l'hiver. Donc, il faut que l'eau soit à 28 degrés pour que les nageurs puissent, même s'il fait 3 ou 4 degrés à l'extérieur, puissent malgré tout se baigner. Et donc là, on a décidé de réutiliser effectivement cette chaleur et dont le puits a été remis en fonctionnement. Donc, on a débouché le puits et on l'a remis en fonctionnement pour assurer non pas la totalité, mais une partie. Là aussi, c'est des économies. C'est aussi le fait qu'on ne va pas utiliser de l'énergie fossile pour chauffer la piscine.
Alors, je précise tout de même que dans la métropole, il y a 3 réseaux de chaleur. Tous sont gérés en délégation de services publics et ils sont alimentés en moyenne à plus de 90% par des énergies renouvelables ou de récupération. On les a évoqués et Corinne Saint-Félix en a parlé dans son flash d'information. Parmi les 3, donc, il y a le réseau de chaleur de Blagnac qui est géré par Blagnac Énergie Verte, alimenté par la géothermie profonde, mais pas seulement. Quels sont les autres modes? Alors là, il y a le complément avec la biomasse, oui, qui est, elle, raccordée aux locaux de l'aéroport. Et pour le reste, vous arrivez à chauffer combien de foyers comme
Alors, on arrive à chauffer à peu près 2500 foyers, ce qui est quand même considérable sur Blagnac. On est en train de se poser aussi des questions de raccordement, peut-être d'avoir une extension du nombre de logements. Pourquoi ? Parce qu'on a une opération de renouvellement urbain sur le Ritouré. On n'est pas très loin des puits de production de chaleur. Et naturellement, les compléments ensuite, hélas, aujourd'hui, sont des compléments. On a pu avoir la biomasse là. Alors, on travaille dans le cadre de la rénovation urbaine sur le photovoltaïque, essayer au moins de rendre les bâtiments autonomes. Donc, je dirais que la première énergie nouvelle, c'est celle qu'on ne consomme pas. Là aussi, toute la rénovation qu'on va faire sur les bâtiments, les logements qui sont sur le Ritouré, qui sont des bâtiments, enfin des logements qui datent des années 70, qui vont être pour certains rénovés, pour d'autres...
Pour l'isolation.
Ah ouais. Pour d'autres, ils vont être carrément rasés et reconstruits avec des nouvelles règles d'isolation avec une perte énergétique bien moindre par rapport à aujourd'hui. Donc, il y a ça aussi qui va rentrer en ligne de compte. Et puis après, on devra toujours avoir le complément, hélas, par de l'énergie fossile. Sauf à ce qu'au plan français, on décide que l'énergie nucléaire, et on a le grand débat aujourd'hui.
Alors ça, c'est la discussion, c'est pas fini, je pense.
Ou les anti, bon, moi, je suis un pro.
Une chose sur le tarif de l'énergie avec le mix que vous avez à Blagnac, est-ce qu'on constate qu'elle est moins chère?
Alors oui, là aussi. La question, si vous voulez, c'est l'amortissement de l'investissement. Donc, sur des opérations comme celle-là, il faut qu'on soit sur des opérations pérennes, des opérations qui durent un certain temps pour que l'amortissement des investissements soit suffisamment étalé pour se retrouver sur des tarifs. Et aujourd'hui, quand on voit la hausse des tarifs de l'énergie fossile, la hausse du gaz, demain la hausse qu'on aura sur l'électricité produite aussi par ce genre d'énergie, est en train de montrer qu'on a intérêt aussi au plan économique à aller vers ce mode d'énergie qui effectivement coûte au niveau de l'amortissement des installations puisque le reste, ben, c'est la nappe de la nature qui nous le produit.
Voilà, on aura un prix de l'énergie en baisse en moyenne de 20%.
C'est ça.
Par rapport à
ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Avec la hausse qu'on connaît aujourd'hui, je pense
encore
que la baisse, ouais, risque d'être encore plus importante.
Alors, il nous reste un peu de temps. Je propose qu'on dise un mot sur le Festival des Lanternes que vous organisez pour la première fois à Blagnac du 1er décembre au 1er février. On en entend beaucoup parler, mais je ne suis pas certain que tout le monde sache de quoi il s'agit précisément. Qu'est-ce que c'est? Où ça a lieu? À quel public ça s'adresse? C'est gratuit? C'est pas gratuit? Dites-nous un peu tout ça.
Bon, merci de me tendre la perche par rapport à ce Festival des Lanternes. En fait, le Festival des Lanternes... Pourquoi il est organisé à Blagnac? Il était antérieurement organisé à Gaillac. Bon, les échos de toutes celles et tous ceux qui avaient pu avoir la chance de le voir à Gaillac avaient été très très positifs en disant vraiment c'est une merveille. En fait, ça consiste à avoir des tableaux. Il y aura 2500 lanternes qui seront là et il y aura une vingtaine de tableaux, 23 tableaux successifs avec un clin d'œil à la culture chinoise ancestrale puisque c'est ça en fait qu'on veut démontrer là-dessus. Donc, oui, c'est un festival qui s'adresse surtout à la famille. Et il faut y aller en famille. C'est pas les vieilles charrues et c'est pas Rio Loco. C'est vraiment quelque chose où on va passer un moment, déambuler, faire le tour pour voir toute cette magie qu'apportent effectivement ces lanternes. Moi, je suis allé voir un peu travailler ces artisans chinois qui, avec de la soie, avec du métal, avec de la porcelaine, arrivent à faire des choses complètement magiques. Alors oui, c'est du 1er décembre au 1er février. C'est gratuit pour les enfants de moins de 11 ans. La place est à 15 euros. Et puis, la question, c'est, parce que ça s'est posé à Gaillac, le stationnement. Donc, nous avons passé une convention avec l'aéroport. Nous avons le parking P5 de l'aéroport qui est exclusivement dédié au stationnement des visiteurs qui pourront stationner là. Il y a une navette qui les amènera de l'aéroport jusqu'au Festival des Lanternes. Et s'ils sont en forme, en 20 minutes, ils peuvent aller depuis l'aéroport jusqu'à l'entrée du site du festival.
Oui, alors le site, on ne l'a pas dit, c'est autour du lac du Ritouret.
Autour du lac
c'est
du
le site du Ritouret qui sera fermé. Bon, donc il y aura un droit d'entrée, il faudra payer.
Bien sûr.
Et c'est tous les jours. Hein,
c'est alors tous c'est les tous jours. Les soirs de 18h. Alors bien sûr, pourquoi Festival des Lanternes? Donc il faut qu'il fasse nuit. C'est donc de 18h à 23h. Tous les jours, donc c'est 61 journées, enfin soirées d'ouverture que nous avons.
Et c'est une société chinoise qui l'organise, hein. C'est alors, pas organisé par les villes qui l'accueillent.
Hein. Alors si, c'est l'organisateur, c'est la ville de Blagnac, mais bien sûr, nous ne savons pas implanter de lanterne. Donc on a une convention, enfin on a un contrat, comme vous le dites, avec la société chinoise, on a un contrat, c'est elle qui implante les lanternes, c'est elle qui nous a proposé la scénographie. Voilà, donc c'est... la ville de Blagnac a la responsabilité puisqu'elle est l'organisatrice, mais c'est un peu comme à Audi-Sud, c'est la compagnie qui produit le spectacle. Ben là, c'est pareil, la ville de Blagnac est organisatrice et les Chinois qui produisent le spectacle. Parce qu'on aura aussi du spectacle, c'est-à-dire qu'il y a des artistes chinois qui, eux, vont, pendant le festival, pendant que les gens déambulent, vont faire un peu d'acrobatie, du théâtre chinois, etc.
Alors, il y a une chose, parce que je suppose que les gens... peuvent se poser la question, vous ne l'avez pas soufflé à la ville de Gaillac. Si c'est à Blagnac aujourd'hui, c'est pour d'autres raisons, c'est tout simplement parce que ça devenait trop gros.
Alors exactement, le problème c'est que bon, la dernière édition du festival à Gaillac, c'était plus de 450 000 visiteurs. Gaillac, le site était de 4 hectares. À Blagnac, on a 8 hectares. Et donc, ce que me disait M. Gosserand, qui est un peu l'intermédiaire entre les Chinois et nous, notre assistant en maîtrise d'ouvrage, et il me disait... moi, j'étais pas bien parce que certaines soirées à Gaillac, il y avait trop de monde, et les gens étaient un peu trop serrés. Et donc, il me dit, moi, là, avec 8 hectares, parce que l'objectif, c'est pas parce qu'on a deux fois plus d'espace, d'avoir deux fois plus de spectateurs. L'objectif, c'est d'avoir la jauge avec 15%, 20%.
Que les gens soient à l'aise et en sécurité.
Et voilà, et en sécurité, dont la sécurité est essentielle. Et puis que les gens prennent du plaisir sans être forcément bousculés. C'est ça aussi ce qu'on attend de ce festival.
Et vous attendez combien de visiteurs?
Alors on table sur 600 000 visiteurs sur les deux mois. Bon, ce qui en fait le plus gros festival européen.
Ben oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est quand même un très très gros événement.
Tout à fait.
Nous sommes arrivés au terme de cette émission à laquelle je vous remercie beaucoup, Joseph Carle, d'avoir participé et de nous avoir présenté dans le détail, de façon très didactique, ma foi, la nouvelle chaufferie biomasse de Blagnac et les réseaux de chaleur métropolitains au passage. On va souhaiter beaucoup de succès au Festival des Lanternes qui ouvre donc le 1er décembre à Blagnac. Il va se poursuivre jusqu'au 1er février. Il y a un site pour vous renseigner et en savoir plus sur cet événement, www.festivaldeslanternes-blagnac.com. Vous pouvez aussi consulter le site web de Toulouse Métropole, www.toulouse-métropole.fr, à la catégorie Mission, rubrique Environnement puis Énergie, pour avoir d'autres informations sur les réseaux de chaleur urbains de la métropole. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Très bon week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.